Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Allez, on parle des réseaux sociaux ce soir dans le débat du jour. Sont-ils en train d'être dépassés, les réseaux sociaux ?
Le débat du jour. Romain Ozoui.
En tout cas, les réseaux sociaux sont dans le collimateur des autorités. Autorités françaises d'abord, puisque ce jeudi, le Conseil d'État doit rendre son avis concernant une interdiction aux moins de 15 ans, telle qu'annoncée par le président Emmanuel Macron lors de ses vœux du Nouvel An. Et cela fait écho à l'Australie. L'Australie qui s'apprête en fin de semaine à célébrer son premier mois au cours duquel les réseaux sociaux ont été interdits aux moins de 16 ans. Tout cela est-il d'augure à faire baisser l'audience des réseaux sociaux qui sont particulièrement prisés des plus jeunes, sachant qu'une enquête indique que le temps passé sur les réseaux sociaux au sein de la population mondiale est en baisse. D'où notre question ce soir, est-ce la fin de l'âge d'or des réseaux sociaux ? Est-ce que les réseaux sociaux sont en train de tomber de leur piédestal ? Ou bien est-ce que le modèle va se réinventer ? Mais alors sous quelle forme ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, à mes côtés en studio, Sophie Géhel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8. Votre ouvrage, L'adolescence au cœur de l'économie numérique. Face à vous, Serge Abitboul, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur en informatique à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, et à l'École Normale Supérieure et co-auteur de l'ouvrage « Nous sommes les réseaux sociaux ». Anna Lambert, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité en ligne avec nous, enseignante chercheuse en philosophie à l'Université Paris 8, spécialiste des technologies numériques et autrice du livre « De la bêtise artificielle ». Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Ben, je me tourne vers vous, Sophie Géhel. Est-ce qu'on peut faire déjà une cartographie des utilisateurs de réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont les plus gros consommateurs de réseaux sociaux ? Et ben, est-ce qu'on sait où, dans quelle zone du monde ?
Carrément sur le monde. Je pense qu'ils sont utilisés dans toutes les régions du monde. Hein. Alors ensuite, selon les régions, ce n'est pas exactement les mêmes réseaux sociaux qui sont utilisés. On sait qu'en Chine, il y a des
TikTok.
Réseaux sociaux qui sont... Non, c'est pas TikTok, mais ce sont des réseaux sociaux qui sont spécifiquement chinois. Non, TikTok, ouais. C'est la version occidentale, si ouais. Je puis dire, pour l'Occident, d'un réseau social chinois. Et voilà, en Afrique, on a beaucoup de Facebook, mais on a aussi beaucoup d'autres réseaux. Et aux États-Unis et en Europe, on va dire, on a à peu près les mêmes réseaux sociaux qui sont très, très utilisés. Alors, qui est-ce qui les utilise le plus ? C'est une question qui est un peu complexe. Pour ce qui est des tranches d'âge, je dirais que ceux qui les utilisent le plus, ce sont les adultes, parce qu'il y a beaucoup d'usages à la fois conversationnels et professionnels. Et puis, ce sont aussi les adolescents. Ce que j'ai défendu dans mon ouvrage sur l'adolescence au cœur du numérique, c'est que les adolescents faisaient partie des cibles privilégiées des industries culturelles et ensuite, dans la continuité, des industries numériques, des grandes industries. Facebook s'est lancé d'abord par la cible, alors pas exactement adolescent, parce qu'adolescent, c'est pas forcément, ces industries ne se vantent pas forcément de cibler les adolescents, même si c'est très utile d'un point de vue commercial
marketing.
Et publicitaire, c'est plutôt les jeunes adultes, les étudiants, et par effet boule de neige, ils réussissent à conquérir d'autres marchés. Mmh. On va dire que... Alors moi, ce qui m'a étonnée, vous voyez, c'est que je pensais qu'avec les outils d'intelligence artificielle générative, enfin c'est ChatGPT et autres...
Les robots conversationnels, ouais.
Pas les robots, mais les...
ChatGPT, c'est ce qu'on appelle le chatbot, les robots conversationnels.
Voilà, si vous voulez.
Enfin, ça pouvait remplacer les réseaux sociaux, c'est ça que vous voulez dire ?
Non, je me disais qu'en entendant la promotion qui en a été faite dans les médias, j'avais l'impression qu'ils ciblaient davantage les adultes et le secteur professionnel. Et puis, j'ai commencé une enquête, mais il y a d'autres chiffres qui sont à disposition, hein, sur les adolescents et ces outils-là. Et j'ai été étonnée de voir que les adolescents étaient en tête des usages de ChatGPT oui. Et autres IA génératives. Donc, ça veut dire que ça reste une cible privilégiée, même si elle n'est pas forcément déclarée officielle. Parce qu'effectivement, ça pose tout le temps des questions de protection des mineurs, de est-ce qu'on se comporte bien, est-ce qu'il n'y a pas des risques particuliers pour cette tranche d'âge.
Mais c'est intéressant de parler parlait de l'IA déjà, de l'intelligence artificielle, on va en reparler certainement parce que on pose la question de ce soir, est-ce que l'âge d'or des réseaux sociaux est passé? Peut-être l'IA est en train de prendre le relais. Il y a beaucoup d'addictions aujourd'hui à certaines intelligences artificielles de la part des plus jeunes. On va y revenir, mais j'aimerais, Sophie Gérel, avant de distribuer davantage la parole, vous posez la question du succès de Facebook, par exemple, aujourd'hui. Comment expliquer que Facebook, qui a été lancé il y a plus de 20 ans, continue de caracoler en tête en nombre d'utilisateurs, plus de 3 milliards d'utilisateurs sur la planète aujourd'hui? Comment on peut comprendre, à une époque qui évolue si rapidement, que le modèle ne s'essouffle pas?
Le modèle a su se renouveler en s'inspirant et en copiant et en mimant un grand nombre de fonctionnalités qui étaient développées par ses concurrents, hein, que ce soit Snapchat, c'est son premier concurrent, que ce soit plus récemment TikTok, et puis aussi en achetant les concurrents comme Instagram ou comme WhatsApp. Hein. Donc c'est des entreprises. Voilà. Et ensuite, le succès de Facebook, il est plus ou moins marqué selon les zones géographiques. En Europe, Facebook est plutôt à la traîne, en fait. Hein. C'est plutôt un réseau qui a un public plutôt âgé, mais pas seulement. C'est aussi un public populaire parce que il y a des fonctionnalités qui sont plus attractives ou qui sont plus simples. Et puis, bon, 20 ans, ça paraît peut-être beaucoup par rapport au discours présentiste ou au discours de l'innovation dont nous sommes abreuvés. Mais 20 ans, c'est en même temps très court à l'échelle des médias.
Serge Abitbol, vous êtes surpris par le succès des réseaux sociaux encore aujourd'hui? Est-ce que ça vous paraît toujours aussi adapté à nos temps?
Ben non, moi je pense que ça a complètement adapté aux individus, pas particulièrement à notre temps, de manière générale aux individus. Parce que là, on entend énormément parler de tous les problèmes qu'ils posent, etc. Mais enfin, si des milliards de gens vont constamment sur les réseaux sociaux, c'est pas pour se faire harceler, c'est pas pour se faire insulter, c'est pas pour se faire agresser, c'est parce qu'ils trouvent du plaisir à aller sur les réseaux sociaux. Et donc là, faut peut-être aussi regarder, on a un peu tendance à tout mélanger dans les réseaux sociaux, il y a plein de facettes différentes. Par exemple, il y a le fait d'être resté en contact avec vos amis, avec votre famille, etc. Donc ce que Cardon appelle la petite conversation, où vous êtes avec des gens que vous connaissez et ça vous permet d'enrichir des rapports qui se sont déjà développés dans un monde physique. Et puis, il y a l'autre chose, l'autre aspect qui est plus un aspect média, la grande conversation, où là, vous regardez ce qui se passe dans le monde entier et on vous présente un peu des informations. Ouais. Ça a finalement peu de choses à voir, même si on mélange ça.
Est-ce que ce que vous évoquez, la deuxième partie de votre réponse, finalement... Et pas davantage représentative aujourd'hui de ce que sont les réseaux sociaux, alors qu'effectivement, initialement, c'était davantage cet aspect conversationnel. Et est-ce que finalement, les réseaux sociaux le sont de moins en moins?
Je ne suis pas certain. Je pense que... Alors là, il faudrait demander à des gens qui font des mesures. Mais je pense qu'on parle beaucoup de la deuxième partie, la partie avec, où on converse, on regarde ce que fait le monde entier et éventuellement on publie pour le monde entier. Mais c'est parce que c'est celle qui pose problème aujourd'hui. C'est là que se trouve le harcèlement le plus massif, c'est là que se trouve la haine en ligne, c'est là que se trouve la désinformation. Mais je sais que, j'ai pas de chiffres, mais les gens que je côtoie et les gens autour de moi sont tous très branchés sur les réseaux sociaux juste pour garder des liens, peut-être avec des amis qui sont au bout du monde ou avec la famille. Et alors là, des fois, la frontière commence à être un peu floue avec des systèmes comme WhatsApp, qui n'est pas systématiquement un réseau social, mais qui vous permet d'avoir des groupes. Donc vous voyez, il y a toute une gamme d'effets. Et pour revenir à votre question de tout à l'heure, pourquoi ça a beaucoup de succès? Parce que, et pourquoi Facebook continue à marcher? C'est aussi pour un aspect d'effet de réseau. C'est-à-dire que vous allez sur le réseau social où il y a tous vos amis. Et tous vos amis sont encore beaucoup massivement sur Facebook. Alors les jeunes qui...
Selon les générations, ils maintiennent leur contact.
Voilà. Et les jeunes vont se distinguer parce qu'eux, ils n'ont pas encore tous cette habitude. Et puis, ils vont plutôt chercher d'autres trucs pour se distinguer des parents, pour ne pas aller sur le réseau des parents.
Anna Lombert, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le lien social, c'est toujours ce qui fait le succès des réseaux sociaux aujourd'hui?
Écoutez, je pense que ça en fait partie. De toute manière, ça me semble relativement évident, même si les choses sont complexes. Il y a plusieurs usages qui coexistent en permanence, les liens sociaux, les usages plus informationnels, etc. Mais je pense que la distinction qui est importante dans ce, enfin, sur ce sujet, pour moi, c'est vraiment la distinction entre les réseaux sociaux commerciaux, les réseaux sociaux dominants, en fait, dont on parle et qui font l'objet de ces interdictions, et puis des réseaux sociaux non commerciaux qui ne fonctionnent pas, en fait, sur la base de modèles publicitaires, sur la base de l'économie de l'attention, donc de la captation de l'attention des usagers, de la collecte des données, des algorithmes de recommandation automatisés, etc. Parce qu'en réalité, ces réseaux sociaux non commerciaux, eux, ils demeurent très peu connus. Et ils peuvent permettre précisément de conserver des liens sociaux, des liens amicaux, de se renseigner aussi sur toutes sortes de sujets, sans être victime de recommandations algorithmiques toxiques ou bien d'une captation des attentions des plus jeunes générations, par exemple.
Et ce sont les fameux réseaux sociaux alternatifs. Et vous pouvez bien en parler parce que le développement des réseaux sociaux alternatifs, c'était une piste que vous aviez proposée dans un rapport en tant qu'ancienne membre du Conseil national du numérique. Oui. Mais en quoi c'est représentatif aujourd'hui quand on parle de 3 milliards, encore une fois, d'utilisateurs Facebook, 2 milliards et demi sur YouTube, 2 milliards sur Instagram?
C'est très peu représentatif, mais c'est très peu représentatif pour des raisons qu'il s'agit d'analyser précisément. Vous voyez, quand on regarde par exemple toute la communication médiatique qui a été faite autour d'un service comme ChatGPT par exemple, et quand on regarde la communication médiatique qui a été faite autour d'un réseau social alternatif comme Mastodon, c'est pas du tout la même. Vous voyez, ce sont pas du tout les mêmes stratégies de marketing, etc. Et donc, je pense que nous devons réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé en fait. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là et pourquoi est-ce que ce sont ces industries numériques-là qui sont toxiques pour bien des raisons, à la fois parce qu'elles ont des effets sur les attentions et sur des plus jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup des jeunes, mais en réalité, nous sommes tous vulnérables face à ces technologies persuasives qui sont conçues, en fait, pour nous capter, pour nous maintenir connectés, etc., et pour nous cibler avec de la publicité, parce que c'est quand même ça le but avant la... Évidemment, maintenant, il y a aussi des enjeux d'influence, de propagande, de manipulation, mais même à l'origine, c'était déjà très problématique ce modèle d'affaires publicitaire. Donc ce que je veux dire, c'est que bien sûr, ces réseaux sociaux alternatifs ne sont pas du tout représentatifs. Mais précisément, c'est au moment où nous commençons collectivement à nous rendre compte des problèmes posés par les réseaux sociaux commerciaux et les modèles d'affaires publicitaires et la recommandation automatique que nous devons réfléchir à des alternatives. Vous voyez, c'est précisément au moment où ces questions arrivent dans le débat public que nous devons aussi être une force de proposition et à, ne pas, si vous voulez, se limiter à des interdictions, mais aussi envisager des alternatives, alors soit des réseaux sociaux alternatifs, soit tout simplement de transformer les réseaux sociaux commerciaux existants. Parce qu'on peut tout à fait les transformer. On peut tout à fait imaginer, par exemple, qu'il y ait une pluralité d'algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux, qu'il y ait des algorithmes de recommandation collaboratifs qui s'appuient sur les jugements des citoyens, donc qui permettent d'éviter les effets de propagande, d'influence, de désinformation, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place en fait, pour transformer ces espaces numériques qui sont à la fois des espaces sociaux et des espaces informationnels.
Et on sait aussi qu'il y a deux vitesses entre ce qui se passe en Europe concernant la régulation. Il y a le Digital Services Act en Europe et la régulation. On en est loin aux États-Unis. C'est une culture complètement différente. Sophie Géhel, je vais reprendre trois mots qu'Anna Lombert a évoqués. La propagande, la manipulation, la publicité, plus en plus importante. Est-ce que les réseaux sociaux sont de plus en plus toxiques?
C'est très compliqué parce que la question de la toxicité et des violences, moi je l'apprécie au regard des enquêtes très nombreuses que je mène auprès d'adolescents de 15-16 ans, et cela fait 10 ans que les adolescents considèrent qu'il y a beaucoup de violence sur les réseaux sociaux numériques. Ce que je pensais naïvement, c'est que étant donné qu'il y a eu des efforts de régulation et des efforts de modération, on pouvait imaginer que les adolescents s'en plaignent moins, alors qu'en réalité ils s'en plaignent davantage. Donc oui, les réseaux sociaux sont de plus en plus, en tout cas les violences qui sont à la fois des violences de harcèlement, mais qui sont aussi le déplaisir de voir des messages racistes, discriminatoires, misogynes qui circulent sur ces plateformes, notamment parce qu'ils circulent aussi sur d'autres plateformes. Donc ça a plutôt tendance à augmenter.
Peut faire fuir les utilisateurs. Encore une fois, parce que la question ce soir, c'est
est-ce
que les réseaux sociaux risquent d'être dépassés?
Ce qui se passe en tout cas, ce que je vois chez les adolescents, c'est que le grand changement, ça a été le fait que les adolescents, et je pense que c'est les adolescents quand ils évoluent, c'est aussi grâce à leurs parents, grâce aux adultes, grâce aux conseils qui leur sont donnés à droite à gauche, ils créent de plus en plus de groupes fermés. C'est-à-dire que au lieu de s'adresser au plus grand monde, il y a 10 ans, les adolescents, particulièrement dans les milieux populaires, étaient très heureux de me dire qu'ils avaient plus de 1000 contacts, plus de voilà. Aujourd'hui, on a plutôt une tendance au rétrécissement de ces groupes de contacts, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire une meilleure prise en compte des conséquences en fait des publications et de la nature des échanges. Et donc moi, ce que je vois, c'est surtout ça. C'est chez les adolescents, je vois pas de diminution pour le moment, hein, de diminution des usages des réseaux sociaux. Au contraire, j'ai l'impression qu'ils jonglent avec de plus en plus de comptes sur des réseaux de plus en plus différents. Hein. Ouais. Donc tout à l'heure, vous me disiez lesquels, bah, c'est d'abord Snapchat, c'est d'abord Instagram, c'est d'abord YouTube, c'est d'abord TikTok, bien sûr, qui a beaucoup bénéficié de la crise du Covid. Hein. C'est à ce moment-là que c'est vraiment implanté. Mais c'est aussi Signal, mais c'est aussi Discord, ouais. Twitch, c'est aussi... Voilà. Donc ils ont un très grand nombre. C'est aussi beaucoup Pinterest pour les filles, notamment, qui utilisent beaucoup ce réseau pour s'inspirer, etc. Et donc, voilà, ce qu'on voit, c'est ça. C'est plutôt un rétrécissement des groupes de contact, une meilleure compréhension, même si moi je travaille beaucoup sur cette question de comment on peut sensibiliser mieux et aider mieux les adolescents et les adultes qui les accompagnent à comprendre les enjeux de vie privée sur les plateformes et à les aider à mieux faire respecter leurs droits sur les plateformes numériques. Donc il y a quand même une meilleure sensibilisation à ça et une adaptation aussi à toutes les expériences passées. Parce que c'est ça qui se passe quand vous disiez 20 ans, c'est beaucoup. Tout à l'heure, 20 ans, ça permet aussi une certaine transmission des expériences et des pratiques qui sont, pour une part, plus adaptées.
Donc pas d'augmentation, en tout cas, vous nous dites, massive de jeunes utilisateurs de réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez encore une fois écrit cet ouvrage « Adolescence au cœur de l'économie numérique », qu'est-ce que vous pensez de cette perspective d'interdire au moins de 15 ans les réseaux sociaux? Donc le projet de loi devrait être examiné avant la fin du mois au Parlement. Le Conseil d'État doit rendre son avis jeudi. C'est pas inédit, hein, puisque l'Australie a mis en place cette mesure pour les moins de 16 ans il y a un mois.
Oui, c'est pas inédit, mais ensuite, on sait pas ce qui va se passer en Australie. Normalement, les plateformes numériques elles-mêmes interdisent toute ouverture de compte avant 13 ans. Ouais. Moi, ce que je sais par un observatoire...
Vise des 13-15 ans, mettons.
Oui, ben, les 13 ans. Mais tant que cette obligation elle est affichée par toutes les grandes plateformes américaines et y compris par TikTok. Eh bien, ce que je constate, c'est que chaque année, les adolescents, donc moi j'interroge à 15-16 ans, me disent qu'ils étaient à plus de 50% sur TikTok avant 13 ans.
Donc ça peut porter un coup d'arrêt à cela ?
Non, je crois pas, puisque c'est pas fait aujourd'hui.
Non, mais
les plateformes sont incapables. Oui, mais c'est...
Vous croyez pas à la capacité des plateformes d'interdire ? Après, c'est pas les plateformes qui interdisent, c'est des logiciels de reconnaissance faciale qui permettent...
Oui, pourquoi est-ce que c'est pas mis en place ? Pourquoi est-ce que c'est pas déjà réalisé ?
A priori, dans les prochains mois, ce sera le cas en France, par exemple. C'est déjà le cas en Australie depuis un mois.
Écoutez, ce que je pense, c'est que je suis extrêmement surprise, si vous voulez. Je dis pas que c'est une très mauvaise décision, mais je trouve que c'est une décision qui montre que on ne croit pas au DSA, c'est-à-dire que le gouvernement lui-même, qui est quand même à la tête, enfin qui a été très très important hein, pour la mobilisation autour d'une bonne régulation, enfin en tout cas d'une régulation des plateformes numériques au niveau européen, n'y croit pas, parce que si on y croyait, eh bien afficher au contraire qu'on a 13 ans, déclarer qu'on a 13 ans sur une plateforme numérique, ça assure des droits supplémentaires et ça assure des garanties supplémentaires. Donc je comprends cette décision de dire on va interdire les réseaux sociaux comme un aveu d'échec. Je trouve ça dommage, je trouve ça un peu... Voilà. Et ensuite, je me dis, mais ça va être reporté. On est à 95% de jeunes à 15 ans qui sont sur Snapchat et qui sont sur... Voilà. Donc, ça va être reporté. Tout ce qui se passe sur ces plateformes...
Ça va être contourné, vous voulez dire ?
Ça va être reporté au moins sur d'autres plateformes. D'accord. Alors, Anne D'Alembert dit que ça pourrait être reporté sur Mastodon. Peut-être, j'en sais rien. Pour l'instant, je n'entends pas que le gouvernement associe l'idée d'interdiction avec autre chose. Moi, je suis hyper inquiète de cette interdiction parce que moi, je milite, c'est un grand mot. Je veux dire, c'est une évidence qu'il faut développer de l'éducation numérique et développer de l'éducation aux médias à l'école, qu'on est très en dessous de ce qu'il faudrait et que j'ai très peur que cette interdiction donne le sens sentiment aux politiques qu'ils ont fait quelque chose pour la jeunesse. Mmh. Alors que y a beaucoup d'autres choses à faire et peut-être commencer par inciter effectivement à utiliser d'autres réseaux sociaux numériques. Mais voilà. Là, on se heurte à des problèmes très, très économiques, très importants.
On renvoie aux réseaux sociaux alternatifs qu'évoquait Anne D'Alembert. Évidemment, ce soir, dans notre débat, on ne pose pas la question de est-ce que les réseaux sociaux sont nocifs, mais davantage, est-ce que l'âge d'or des réseaux sociaux est passé finalement. Et Serge Habitbol, vous pensez quoi de cette... est-ce que ça peut porter un coup aux réseaux sociaux, l'interdiction au moins de 15 ans, au moins de 16 ans en Australie ou est-ce qu'il y a le risque, soit que les adolescents contentent de cette interdiction, vous êtes chercheur en informatique, soit, comme vous disiez, qu'ils aillent vers d'autres réseaux, donc il y a une sorte de vase communicant. Et...
Mais ça sera des plateformes de jeux, hein, c'est à ça que je pensais. Hein,
oui, bien
ça,
sûr.
Ça sera, voilà.
Je suis persuadé qu'ils vont arriver à détourner. Ils détournent déjà constamment et systématiquement. Je pense que ça va être extrêmement difficile à maintenir. Mais je pense surtout, ce que vous avez dit, c'est que c'est, à mon avis, très nocif de faire ça. Parce qu'on a le DSA qui était en train de dire, on va essayer de réguler ces réseaux sociaux. On peut aussi, en tant que citoyen, essayer de trouver de meilleurs réseaux sociaux comme Mastodon ou d'autres. Il y a des systèmes qui sont spécialisés pour les enfants, etc. Donc, on peut essayer de trouver d'autres solutions. Et on était dans cette voie-là, dans une voie qui était une voie raisonnable d'essayer de trouver, de fixer les problèmes des réseaux sociaux sans abandonner, encore une fois, ce qu'on oublie tout le temps. C'est quelque chose, les réseaux sociaux apportent des avantages considérables aux jeunes. S'ils y vont, et aux adultes aussi, s'ils y vont, c'est parce qu'ils y prennent du plaisir. Alors là, on va l'interdire. Encore une fois, je pense que ça va être très difficile à maintenir. D'une autre façon, ça va aussi dédouaner d'une certaine façon les réseaux sociaux. On va leur dire, allez-y, faites ce que vous voulez, c'est plus la peine de modérer ou quoi que ce soit. C'est free lunch. Donc je pense que on est absolument dans un cinéma un peu de médiation, de communication. Je vais essayer de prendre un exemple. Les cours de récréation peuvent être nocives. Dans une cour de récréation, vous pouvez vous faire harceler, vous pouvez vous faire racketter. On n'a pas interdit les cours de récréation. Mmh. On a mis des règles dans les cours de récréation. On a enseigné aux enfants des comportements dans les cours de récréation. Et du coup, ils peuvent en bénéficier, prendre tous les avantages d'une cour de récréation sans en avoir les inconvénients, on espère. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Il y avait des tas d'avantages aux réseaux sociaux. Il faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut essayer de réguler cette zone-là, d'en faire une zone qui soit quelque chose d'agréable dont on puisse bénéficier sans avoir à payer un prix pour ça. Et c'est pas en l'interdisant qu'on y arrive.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Est-ce que c'est la fin de l'âge d'or des réseaux sociaux? On pose la question ce soir alors que les réseaux sociaux sont dans le collimateur, je le disais, des autorités françaises. D'abord parce que à partir de la fin du mois, le Parlement va examiner une proposition de loi qui prévoit d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. C'est déjà le cas en Australie pour les moins de 16 ans depuis bientôt un mois. Mes trois invités sont Serge Habitbol, qu'on entendait, qui est chercheur en informatique à l'INRIA et à l'École normale supérieure, co-auteur du livre « Nous sommes les réseaux sociaux », Sophie Géhel, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8, auteur du livre « L'adolescence au cœur de l'économie numérique » et Anne D'Alembert, qui est en ligne avec nous et qui est enseignante chercheuse en philosophie à l'Université Paris 8, spécialiste des technologies numériques, autrice du livre de la bêtise artificielle. Alors, on a bien compris dans la grande première partie de ce débat, bien que non, ça ne va pas mettre à mal les réseaux sociaux, ces projets des autorités françaises et australiennes, que Serge Habitbol disait, les jeunes vont contourner cette interdiction. Sophie Géhel disait qu'il y aura un report vers d'autres réseaux sociaux. Mais en même temps, face à ce succès qu'on évoque depuis le début de l'émission des réseaux sociaux, je voudrais... ajouter un petit bémol, Anne D'Alembert, je voudrais vous faire réagir à cette vaste enquête qui avait été menée en l'automne dernier par l'Institut GWI pour le Financial Times, qui a été menée dans plus de 50 pays et qui montre que le temps passé sur les réseaux sociaux est en baisse. 2h20 par jour dans le monde pour les 16 ans et plus, c'est 10% de moins par rapport à 2022. On rappelle les chiffres, hein, plus de 3 milliards d'utilisateurs toujours de Facebook. Anna Lombert, est-ce que c'est passager selon vous ou est-ce que c'est une baisse qui annonce peut-être le début d'une descente pour les réseaux sociaux?
Bah, écoutez, je ne peux pas vraiment vous dire l'avenir, c'est-à-dire que je ne sais pas très bien comment les choses vont évoluer, surtout qu'on en reparlera peut-être plus tard, mais maintenant il y a aussi toute la problématique des intelligences artificielles génératives, etc., qui vont transformer encore ces espaces numériques-là, et puis les usages et les pratiques. Mais ce que je me dis, c'est que peut-être aussi que cette sorte de, disons, de baisse de la popularité ou du succès de ces plateformes est liée à la dégradation de ces services aussi, parce qu'à force justement de recommander du contenu suradapté, surpersonnalisé, donc d'enfermer les individus dans des bulles informationnelles, et puis il y a plusieurs rapports qui ont été publiés, par exemple, bon, il y a aussi eu toutes les informations délivrées par Frances Haugen sur les Facebook Files, etc., qui ont montré la dangerosité, en fait, pour notamment pour les adolescentes, l'image de soi, etc. Donc, toutes ces études, et puis les usages aussi qui témoignent, en fait, de la mauvaise qualité des contenus qui sont recommandés, ont peut-être eu une influence négative. Après, je ne sais pas ce qu'il en sera à l'avenir, parce que ces plateformes ont aussi l'habitude de se renouveler, voilà, on en parlait tout à l'heure, de toujours trouver des nouvelles stratégies de captation de l'attention, etc. Donc peut-être qu'avec l'IA générative aussi, on assiste aujourd'hui à des nouvelles manières, disons, de capter les individus, de les maintenir connectés, alors avec des chatbots, avec des agents conversationnels, etc., des amis virtuels même. Donc il y a une nouvelle industrialisation, disons, de l'amitié qui est en train de se développer avec ces IA génératives. On sait que les IA génératives sont parfois maintenant directement intégrées aux messageries instantanées ou bien aux réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux cohabitent aussi avec l'IA, hein, aujourd'hui, de plus en plus.
Voilà, exactement. Donc, je ne sais pas à quoi vont ressembler les services de demain et ce qui lancera des usages de demain. Maintenant, je crois aussi, comme le disaient Sophie Gell et Serge Abitboul tout à l'heure, que l'interdiction, si vous voulez, elle fait passer un message collectif important sur la dangerosité de ces plateformes, mais ce n'est pas du tout une solution en soi. Une interdiction ne peut pas être une solution en soi. La question, c'est qu'est-ce qu'on propose d'alternatif, en réalité, à ces plateformes-là. Et c'est peut-être ça qui, enfin, plutôt que de se demander si les plateformes commerciales plaisent ou non aux usagers, la question qui se pose pour moi, c'est quelles sont les alternatives qu'on va proposer aux usagers pour éviter précisément ces effets nocifs.
Sophie Gell, on arrive à la fin bientôt, dans un peu plus d'une minute de cette émission. Est-ce que tout cela annonce des réseaux sociaux qui peuvent tomber de leur piédestal selon vous, parce que les mots qui guettent les réseaux sont quand même de plus en plus nombreux, et c'est paradoxal de comprendre ce succès des réseaux sociaux qui perdurent. On évoquait justement les réseaux de moins en moins sociaux, les réseaux antisociaux, comme dit Anna Lombert. Il y a la collecte des données de plus en plus importante, il y a la nocivité des écrans qui est dénoncée de plus en plus, les algorithmes qui entravent de plus en plus nos libertés, les contenus violents qu'évoquait Serge Abitboul, les fake news, les fausses informations qui prolifèrent. Et est-ce que ça peut être aussi un coup porté au réseau pour vous?
Oui, bien sûr que ça fait partie, au bout d'un certain temps, ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens sont un peu dégoûtés. Mais c'est aussi la prise en compte du temps qui passe sur leur smartphone, etc. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on s'attaque, effectivement, ce qui est juste dans votre question, c'est qu'il y a une baisse des réseaux sociaux, mais ils sont remplacés par ChatGPT et autres. Voilà. Et donc, je me dis, pourquoi est-ce qu'on veut interdire les réseaux sociaux numériques? Parce qu'à mon avis, ChatGPT, en termes de santé mentale, en termes de désinformation, c'est pire que TikTok en réalité, parce qu'on n'a aucune maîtrise sur ce qui est proposé. Il n'y a aucun rapport aux sources. Il y a un effet dramatique sur les jeunes qui va être un effet de paresse cognitive ou de contournement cognitif. Et moi, je suis, je me dis, est-ce qu'on ne met pas l'attention sur un outil industriel qui, effectivement, a un certain temps pour oublier que le danger, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt du côté des intelligences artificielles génératives?
Bon, bah, pour répondre à la question, ce n'est pas vraiment l'âge d'or des réseaux sociaux, et de toute façon l'IA pourrait tout à fait prendre le relais, peut-être pas pour le meilleur, c'est ce que vous dites Sophie Gell. Serge Abitboul, merci beaucoup également à vous, et Anna Lombert, les trois invités du débat du jour ce soir. Merci à Florence Ponce et Arnold Assoa à la préparation de ce débat, et Claude Battista à la réalisation. Dans une minute, le grand journal du soir sur Radio France Internationale, suivi d'Afrique Soir comme chaque soir. Bonsoir. Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Quel programme ce soir,
Zéphirin ? Le programme ce soir du football, bien sûr, avec deux matchs décisifs pour la qualification en quart de finale de la CAN. Deux belles affiches donc. La République démocratique du Congo affronte en ce moment même l'Algérie. Score 0-0 à l'issue du temps réglementaire. À suivre donc des prolongations. Et puis l'autre confrontation opposera à 19h temps universel la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Des rencontres à vivre évidemment en direct et en intégralité sur nos antennes africaines. On parlera également, Romain, de la libération des responsables de la filiale tunisienne de France Terre d'Asile, poursuivis pour leur action en faveur des candidats à l'immigration irrégulière. Nous reviendrons également sur la rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue angolais João Lourenço.
Rendez-vous dans 30 minutes, mais d'ici là, rendez-vous dans 30 secondes pour le grand journal du soir d'Adrien Delgrand.